Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Ibrahim Bayili.
Prise de contact des nouveaux ministres ce matin à la primature. À l'occasion, le Premier ministre a dévoilé les trois objectifs de son gouvernement. Le Premier ministre a pris officiellement fonction cet après-midi. La passation des charges a eu lieu cet après-midi donc à la primature. Puis le collectif des leaders panafricains se dit être engagé à lutter pour l'indépendance et la libération du Burkina Faso. Il l'a fait savoir ce mercredi au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. C'est hier que la liste de la nouvelle équipe gouvernementale a été dévoilée. La première du MPSR 2 du capitaine Ibrahim Traoré. La nouvelle équipe gouvernementale compte 23 membres, dont 5 du gouvernement précédent. Nous vous invitons à découvrir la composition de cette équipe de Apollinaire Kelem avec Khaled Ouédraogo.
C'est une promesse faite et tenue par le nouveau Premier ministre de la Transition. Sur les 25 portefeuilles ministériels autorisés par la Charte de la Transition, Apollinaire Kelem a bâti une équipe gouvernementale resserrée de 23 membres. Un gouvernement placé sous le signe de la continuité, avec la reconduction de 5 anciens ministres du précédent gouvernement. Bassolma Bazier, Olivia Rwamba, Karamoko Traoré, Robert Kargougou et Aminata Zerbo sont les ministres qui ont été repêchés par le nouveau chef de l'exécutif. En plus de conserver son poste de ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazier est bombardé ministre d'État. Le deuxième ministre d'État de ce gouvernement est le colonel-major Kassoum Koulibaly, qui prend désormais les rênes du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Apollinaire Kelem a également ratissé large et fait appel à de nouvelles compétences pour porter l'action gouvernementale. Jean-Emmanuel Ouédraogo, précédemment directeur de la RTB Télé, est nommé ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le ministère en charge du Commerce échoit à Donatien Nagalo, figure bien connue du monde des affaires. Fusionné au ministère de l'Action Humanitaire, le portefeuille de la Réconciliation Nationale est désormais l'affaire de Nandi Somene Diallo. Le très stratégique ministère de l'économie, des finances et de la prospective a été confié à Boubacar Nakanabo, un inspecteur des impôts. En plus de la suppression du ministère des Affaires religieuses et coutumières, l'autre fait marquant dans la composition de ce gouvernement est la représentativité de l'autre moitié du ciel. En effet, le Premier ministre a fait appel à 5 femmes, soit une place de moins pour la gente féminine, comparativement à l'équipe gouvernementale précédente.
Ce mercredi, la nouvelle équipe a fait sa rentrée des classes sous la supervision bienveillante du Premier ministre et du président Ibrahim Traoré. Ce conseil de prise de contact s'est voulu très sobre. Les 23 ministres, après une heure d'échange à huis clos, sont tombés d'accord sur un certain nombre de points jugés urgents. Je vous invite à suivre ces points urgents que veulent mettre en place le gouvernement de la transition. Écoutez Maître Apollinaire Kelem, Premier ministre.
Alors donc, comme vous le savez, n'est-ce pas, c'est un gouvernement de combat qui a été formé. Voilà. Ce n'est pas un gouvernement de dîner de gala. Et le président vient d'insister sur ce point encore ce matin. Alors donc, ce gouvernement aura principalement trois objectifs. Le premier objectif, le principal et le prioritaire, c'est la sécurisation du territoire. C'est la sécurisation du territoire. Et ça, tout le monde peut y contribuer. Chaque Burkinabé qui se dit patriote peut y contribuer à sa façon. Le deuxième objectif sera de faire en sorte à améliorer la qualité de vie des Burkinabés. Pouvoir d'achat, salubrité, insalubrité, hygiène, faire en sorte que le Burkinabé puisse vivre de façon agréable dans son environnement. Et enfin, le troisième objectif sera d'améliorer le système de gouvernance. Qu'est-ce qui fait que chaque fois il y a l'instabilité politique? Que pouvons-nous faire pour une meilleure gouvernance pour notre pays, pour notre société? Voilà les objectifs principaux du gouvernement. Et à ces trois points, chacun peut y adhérer, pour peu qu'il ait un esprit patriotique. Je vous remercie.
Maître Apollinaire Kelem, Premier ministre, reçoit officiellement sa lettre de prise de service demain du secrétaire général du gouvernement. Cette cérémonie marque sa prise de fonction en tant que Premier ministre après sa nomination vendredi dernier. C'est à la primature que cette cérémonie d'installation s'est déroulée. Valérie Guéret.
C'est acté, Apollinaire Kelem est désormais le nouveau patron du gouvernement. Il a été officiellement installé dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernement qui lui remet sa lettre de prise de service. Une occasion pour le nouveau chef du gouvernement de prendre la parole pour exhorter ses collaborateurs à agir différemment.
Je vais vous dire, c'est vous rappeler tout simplement ce que le président du FASO nous a dit ce matin. Il a résumé son intervention en disant que désormais, le moi doit faire la place au « nous ». Dans toutes nos actions, dans tout ce que nous faisons, nous devons nous poser la question, est-ce que c'est pour l'intérêt général ? Il faudrait que chacun de nous sache que nous sommes ici des privilégiés. Quand nous connaissons le Burkina Faso, nous savons que dans le Burkina Faso profond, il y a des gens pour qui même avoir de l'eau potable pour boire est un problème. Donc, quand nous faisons nos revendications ici, posons-nous la question. Est-ce que je pense aux autres ? Est-ce que je pense aux 20 millions d'autres Burkinabés ? Ou bien est-ce que c'est pour mes propres intérêts ? Si nous avons l'amour de notre peuple, il nous faut agir différemment. C'est pour ça que le président dit que tout est urgent.
De ce fait, il invite tous ses collaborateurs au travail pour la réussite effective de cette transition.
Ouagadougou est un lieu privilégié dans le Burkina Faso. Mais vous voyez que Ouagadougou même reste encore une ville de misère. Quand ce n'est pas la poussière en saison sèche, c'est la boue en saison de pluie, dans la plupart des cas. Qui peut être fier d'une telle capitale ? Il nous faut essayer de voir comment nous pouvons arranger tout cela. Donc, nous vous invitons tous au travail. Notre objectif, c'est mettre les Burkinabés au travail. Que les Burkinabés sachent que personne ne viendra construire leur pays et leur bonheur à leur place. Que les Burkinabés sachent qu'il ne s'agit pas d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Et que c'est à chaque, en toute conscience, de comprendre qu'il a son destin en main. Je voulais dire à mes collaborateurs que les chantiers commencent. Et comme le président a dit qu'il ne cherche pas d'explication, il veut des résultats.
Apollinaire Kelem succède à Albert Ouédraogo, Premier ministre jusqu'au coup d'État du 30 septembre dernier.
Merci à Valérie Guéret. Les réactions se poursuivent après la composition du gouvernement burkinabé. Mahamadi Kouanda, président de la CCP, la coalition centriste pour la paix, a salué la promotion de certains secrétaires généraux de ministères au poste de ministre. Pour lui, il s'agit d'une équipe de combat. Il est au micro de Bernabé Cabré.
Ce qui m'a marqué le plus, c'est la nomination de beaucoup de secrétaires généraux. Il y a celle de la justice, celle aussi du ministère de la femme, je crois, qui est devenu un super ministère, où les conciliations ont été attachées là-bas. Et il y a également celui de l'habitat. Mais ce qui a marqué surtout le plus jeune ministre de la communication, c'est la télévision nationale. Je sais que, en tout cas, ça a l'image du président du FASO. Ici, je souhaite souhaiter bon vent à l'équipe. C'est dire que c'est le Burkina d'abord, avant qui ce soit. Vraiment, c'est démarquer des gains faciles. Et comme aujourd'hui, notre pays est malade de l'insécurité, est malade de la cohésion nationale, est malade de l'insuivisme. Je pense que tout responsable aujourd'hui doit donner l'exemple par son comportement quotidien, qu'il peut être un exemple pour la jeunesse et pour la population. C'est ça qui est important. Parce que personne n'est content aujourd'hui que le Burkina devienne un pays le plus consommateur de coups d'État. Parce que ça ne fait pas honneur au Burkina, mais vous faites avec. Espérons que ces coups-là, qui sont consommés, vont donner du recul à tout un chacun, de comprendre que tout le monde n'est pas le président et que travaillons à la réconciliation, qui feront le pays plus de 40% dans la main de nos ennemis, des ennemis d'Allah. Et puis, bon. Chacun qui fait que les politiciens n'ont qu'à être patients, accompagnés, et puis attendre les 21 mois là pour aller aux campagnes dans les conditions les plus acceptables.
Quant à l'absence de figures politiques connues dans le gouvernement, il trouve que cela n'est pas un obstacle à l'atteinte des objectifs. D'ailleurs, souligne-t-il, qui allait intégrer le gouvernement car le coup d'État est venu mettre tous les partis au même niveau.
Honnêtement, je ne pense pas forcément que c'est un problème. Je crois qu'eux-mêmes avaient des problèmes pour définir qui allait partir. Parce que vous savez que la CIE, là, si nous avons tous accepté les résultats, c'est pour l'amour de la patrie. Par exemple, nous, on a été écartés. Vous avez suivi mon interview, non ? On a été écartés à la CIE. parce que les militaires, je ne sais pas si c'est fait sciemment ou ils étaient trompés, ils en sont contentés de prendre l'ancienne majorité, l'ancienne opposition, et puis autre parti et le nom inscrit de professeur Soma, ce qui n'est plus valable. Quand il y a coup d'État, tous les partis sont venus au même niveau. Je reviens à l'État de nous organiser et de se référer. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à l'équipe.
Le collectif des leaders panafricains se dit être engagé à lutter pour l'indépendance et la libération du Burkina Faso. Au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi, elle a dénoncé la coopération militaire avec la France qui, selon elle, ne résout pas la crise sécuritaire. Le collectif lance un appel à manifestation le 28 octobre prochain pour soutenir les autorités maliennes et mettre la pression sur l'ambassade de France au Burkina pour que justice soit rendue sur la plainte malienne déposée à l'ONU accusant la France d'être de connivence avec les groupes armés terroristes. Ils exigent également des nouvelles autorités burkinabées, l'annulation des accords coloniaux signés avec la France et la diversification des partenariats pour lutter efficacement contre le terrorisme. Plus de détails avec Jacob Compaoré et Joël Soré.
Tous les soldats français présents sur le sol burkinabé sont invités à quitter le territoire du Burkina Faso dans un délai de 72 heures à compter de la date du 28 octobre 2022.
C'est l'ultimatum donné par les membres du collectif des leaders panafricains aux militaires français pour quitter le territoire national. Selon ce collectif, les indépendances acquises de haute lutte ont été reprises par des techniques qu'ils qualifient de machiavéliques à travers 11 accords coloniaux signés avec la France. Ces membres dénoncent la présence militaire française sur le sol burkinabé qui, selon eux, n'est rien d'autre qu'un système d'asservissement et d'exploitation. Alpha Sebougo, membre du collectif.
Ils envoient les militaires français ici. Et quand ils envoient, ils ne demandent pas la permission à quelqu'un parce que les 11 accords sont là. Le numéro 6 leur donne le droit d'envoyer leurs soldats ici pour défendre leurs intérêts. Donc, nous, population, la jeunesse mobilisée refuse désormais cela.
Et pour combattre la menace terroriste, le collectif des leaders panafricains se dit être prêt à répondre à la volonté des nouvelles autorités pour le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Alpha Sebgo, membre du collectif.
Thomas Sankara nous avait posé une question, et cette même question, si on le pose aujourd'hui, la réponse est certainement oui. Il a dit ceci: peuple voltaïque, seriez-vous prêt à prendre les armes et combattre l'ennemi? En ce moment, ils avaient dit oui. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. La jeunesse qui est là est mobilisée, engagée, sans retour. On veut la paix, c'est tout.
Pour faire entendre plus ces revendications, le collectif lance un appel à manifestation le 28 octobre prochain au regard de la crise sécuritaire que connaissent les pays sahéliens, en l'occurrence le Burkina Faso et le Mali.
La stratégie nationale de protection sociale du Burkina Faso tire vers sa fin pour la nouvelle stratégie qui va durer 5 années, à savoir 2023-2027. L'ONG ASMAD, Association Manégré Aide au Développement, veut capitaliser les acquis pour une réussite de ce nouveau programme. Un atelier dont les travaux ont débuté ce mercredi 26 octobre se tient à cet effet. Il se déroule au siège du SPON, secrétaire permanent des organisations non gouvernementales. Compte rendu, Solomon Nikema et Yakuba Wilio.
La stratégie nationale de protection sociale du Burkina qui s'achève cette année a permis de construire et d'équiper des centres sanitaires. Elle a aussi rendu possible la réduction du coût des services de santé maternelle et infantile à travers la gratuité des soins au profit de la mère et de l'enfant de moins de 5 ans. À cela s'ajoute l'accès à l'eau potable dans certaines localités. Cependant, des défis restent à relever. Amédé Bamouni, secrétaire permanent du Comité national pour la protection sociale.
Il y a eu des insuffisances qu'on doit combler, des défis qu'on doit relever. Donc la particularité, nous allons mettre l'accent sur l'installation d'un socle de protection sociale. Et à la protection sociale de manière générale, mais le socle de protection sociale, c'est le minimum vital qu'il faut pour chaque individu en société. Et à cela, il faut ajouter que nous sommes en train aussi de réfléchir pour développer l'assurance sociale, dont fait partie les mutuelles. Il y a le domaine des filets sociaux, qui est l'ensemble des aides qu'on accorde à ceux qui sont dans la vulnérabilité économique.
Et ces défis à relever sont reversés dans la nouvelle stratégie nationale de protection sociale qui va de 2023 à 2027 avec pour priorité la contribution des mutuelles sociales. Caroline Tapsoba, chef de projet et programme à l'ONG ASMAD.
dans l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de protection sociale. C'est de réfléchir sur les grands axes et comment est-ce que les mutuelles sociales peuvent apporter leur touche pour le bon succès de l'élaboration de la nouvelle stratégie de protection sociale.
C'est au cours de l'atelier de deux jours que les participants ont examiné les conclusions des travaux. C'était aussi un cadre de partage d'expériences en matière de mise en œuvre de la PNPS, Politique nationale de protection sociale. Ils vont aussi définir leurs attentes pour la nouvelle stratégie. Les travaux prennent fin ce jeudi 27 octobre 2022.
Omega Sport.
Alors que le monde du football continue de pleurer, le président Noufou Ouédraogo, décédé dimanche dernier, une autre mauvaise nouvelle s'abat sur le football national. Ladji Koulibaly, ex-entraîneur de Salitas FC, a tiré sa révérence cet après-midi à l'hôpital Sanoussourou de Bobo. Ladji, comme on l'appelait affectueusement, a fait sa carrière de footballeur au Racing Club de Bobo du Lasso et dans la silure de Bobo avant d'embrasser la carrière d'entraîneur. Il a été entraîneur de l'USFRAN, au RCB, à l'ASFB, au Kikou FC, à l'US Forces Armées, à l'ASFA Yenega et à Salitas FC. On n'oublie pas son passage à Sanga FC de Bobo Dioulasso avec qui il a joué les demi-finales de la Coupe du Faso, battu par l'ASFB avant de perdre le match de classement devant l'US Forces Armées. Nous reviendrons sur la vie de cet entraîneur hors pair qui a tout donné au football.
La revue de presse.
Fin d'attente pour les Burkinabés. Quatre jours après la nomination de Maître Apollinaire Kilem comme Premier ministre, la composition du gouvernement a été dévoilée. C'était dans la nuit d'hier, mardi 25 octobre 2022. Une composition qui fait la une des quotidiens du jour, ainsi que l'attaque de la base du 14e régiment interarmes de Guibo. La revue de la presse est signée Valérie Guéret.
L'album photo des membres du gouvernement s'affiche à la une des manchettes du jour. Le journal Le Pays de titré à sa une « Gouvernement qui l'aime un léger dégraissage pour pouvoir aller vite au charbon ». Au charbon, cher ministre, s'exclame aujourd'hui au Faso en titre. Pour ce canard, ils sont au total 23 ministres à être appelés au combat pour dépêtrer le Burkina de ses problèmes. Cela dit, resserrer c'est bien, mais on ne se lassera jamais de le dire. Avoir des personnes qu'il faut à la place qu'il faut est encore mieux, opine notre confrère du journal Le Pays. Fait marquant dans ce nouveau gouvernement burkinabé pour les quotidiens du jour, elle a monté en grade du général Bassolma. Pour l'Obs, non seulement le général, comme certains de ses camarades, syndicalistes le surnommaient, conserve son portefeuille de la fonction publique, mais il est, pour ainsi dire, bombardé ministre d'État, deuxième dans l'ordre protocolaire du gouvernement. Une petite revue de cette troupe montre que l'ex-ministre de la fonction publique monte en grade et devient ministre d'État comme son nouveau collègue de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly, renchérit aujourd'hui au Faso. Pendant qu'à Ouagadougou, les tractations se poursuivaient pour la formation du gouvernement du premier ministre Kilem de Tambela, sur le terrain, loin de la capitale, plus précisément à Djibo, le 24 octobre dernier, les terroristes étaient à l'œuvre pour traduire en actes ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire détruire et tuer tout sur leur passage, fait remarquer le journal Le Quotidien. À l'analyse de notre confrère de l'Express du Faso, il y a un gros et sérieux travail à faire à Djibo. C'est là-bas qu'on a le plus perdu de soldats et de populations civiles. C'est aussi là-bas qu'ont été enregistrés les plus grands dégâts matériels, militaires ou civils. Pourquoi donc Djibo ? S'interroge le journal Bobolais. La réponse à cette question est sans doute difficile à trouver dans l'immédiat.
C'est la fin de ce journal réalisé par Adama Konaté. Le live Facebook est assuré par Yaya Diomandé. Je suis Ibrahim Bailly. Merci de nous avoir suivis.
Radio Omega, l'info en direct. L'invité du jour. L'invité du jour.
Kabore, bonjour.
Bonjour.
De façon générale, quelle est la situation de l'industrie minière au Burkina ?
Le secteur minier occupe une place de choix dans l'économie nationale. Nous avons environ 15 mines en exploitation. Malheureusement, depuis le début de l'année, au moins 6 mines sont fermées. Quand je parle de mines, c'est des projets miniers ayant des permis à part et des numéros IFU et des registres de commerce à part. Donc Yuga, Nitiana, Ware ont suspendu leurs activités du moins seulement parce que Yuga a fini de ramasser son minerai et Nitiana partait en souterrain et les deux sociétés comptaient sur le minerai de Ware qui a malheureusement connu une attaque le 30 janvier 2022. Donc l'un dans l'autre, on a plus de 2000 emplois qui sont aujourd'hui perdus. Et avec un manque à gagner de plus de 20 milliards pour le budget de l'État, sans compter, bien sûr, le fonds minier de développement, la patente, la taxe superficielle, qui sont directement reversés au niveau des collectivités. Donc, on a un secteur vraiment en crise. Et depuis un certain temps, les statistiques montrent que la production d'or est en baisse continue. Entre janvier et août 2022, on a enregistré une baisse de près de 13% de la production par rapport à la même période l'année passée.
Il y avait des projets en cours en termes de recherche. Qu'en est-il exactement?
L'insécurité aussi a beaucoup impacté sur la recherche. Vous savez très bien que l'avenir d'un pays minier se trouve dans la recherche. Au-dessus de Kaya, on ne peut plus mener la moindre activité. Au-dessus de Kongo, on ne peut plus mener la moindre activité. Alors qu'on avait un gros paquet de sociétés en recherche dans ces zones-là. Donc, disons, la diminution de la recherche va beaucoup impacter sur l'avenir de ce secteur parce qu'il n'y aura pas de nouveaux permis en tant que tel.
Est-ce que cette situation n'est pas de nature à décourager d'éventuels investisseurs?
L'aspect sécuritaire décourage beaucoup d'investisseurs. Déjà, avec les investissements qu'ils ont eu à faire, par exemple au niveau de la recherche et au niveau même des permis qui sont fermés, c'est quand même une immobilisation qui ne dit pas son nom. Donc, c'est de l'argent qui est immobilisé, qui ne travaille pas. Quand même, un manque à gagner pour ces sociétés-là qui étaient venues quand même se faire de l'argent. Donc, c'est une situation qui aura un impact à long terme sur le développement des activités au niveau du Burkina, l'arrivée des investisseurs, l'augmentation des investissements directs étrangers, bien sûr... les questions de balance commerciale, parce que moins d'argent va rentrer au niveau du pays. Ça ne sera vraiment pas évident que l'on puisse assurer un avenir radieux pour ce secteur-là.
Justement, en parlant d'accompagnement, est-ce qu'il y a des sociétés minières qui bénéficient d'un accompagnement de la part de l'État, surtout sur le plan sécuritaire?
Non, je pense que c'est au cas par cas. Chacun demande l'escorte et puis on les escorte. Mais je ne pense pas que c'est ce que les sociétés, vraiment les sociétés s'attendaient à ça. On peut mieux faire. On peut mieux faire parce qu'il y a des sociétés qui ont des retards de livraison parce que les escortes ne sont pas régulières et ne sont pas à la limite comme elles le voulaient. C'est vrai qu'il y a des contraintes parce que c'est le même matériel, ce sont les mêmes hommes qu'on utilise ailleurs pour la sécurisation du territoire d'une manière générale. Donc aujourd'hui, quand même, il y a des sociétés, quand vous prenez celles qui sont dans les zones rouges, une des sociétés comme Isakan peine vraiment à avoir souvent des ravitaillements parce qu'elle doit traverser toute la zone et se retrouver au cœur même des hostilités. Donc c'est une société qui est obligée d'investir énormes sommes d'argent pour la sécurisation des convois, la réparation des routes qu'elle emprunte, bien sûr, le transporter son personnel.
Comment redynamiser ce secteur?
La redynamisation de ce secteur-là passe, comme je l'ai dit, par le dialogue et la réaffirmation du rôle de l'État en tant que le leadership de l'État en tant qu'entité qui doit coordonner et conduire ce dialogue-là. Donc le mieux serait de vraiment mettre l'accent non seulement sur la sécurisation du pays d'une manière générale, mais aussi voir dans quelle mesure on peut accompagner ces sociétés-là sur le plan de la sécurisation de leurs convois, la sécurisation des sites, et la sécurisation du personnel, et aussi, pourquoi pas envisager un dialogue qui va permettre aussi, au cas par cas, comment accompagner sur le plan fiscal certaines entreprises, comment les aider aussi à régler les questions environnementales, parce qu'aujourd'hui quand même il y a des sociétés qui ont fini de travailler, qui ont abandonné les sites et qui ont besoin quand même de réhabilitation. Comment il faut les accompagner pour la réhabilitation? Comment il faut aussi accompagner ces sociétés pour qu'elles continuent les interventions au niveau communautaire? Comment accompagner les collectivités qui reçoivent les fonds miniers pour qu'elles continuent à faire des investissements? Peut-être même que ces investissements peuvent permettre aussi de résorber le chômage dans ces localités-là et peut-être décourager des jeunes qui sont candidats au niveau de ces groupes armés-là. Donc c'est une réflexion d'ensemble qu'il faut mener en mettant ce secteur-là au cœur de la réflexion parce que c'est un secteur qui est très transversal. Aujourd'hui, il génère beaucoup de cash. C'est ce secteur-là qui nous permet d'avoir rapidement de l'argent. Parce que vous savez que dès la pesée, les royalties sont facturées, les fonds miniers sont facturés, et c'est de l'argent qu'on paye cash. Donc il faut accompagner ce secteur-là aujourd'hui pour pouvoir tirer le maximum. Non, à côté des exploitants, il y a les sous-traitants. Il y a plusieurs sous-traitants aujourd'hui qui ont des difficultés pour approvisionner ces sites-là. Il y a eu une attaque à la sortie de Fada qui a concerné un sous-traitant qui de la mine de Bongo. Bon, il serait difficile par exemple pour ce sous-traitant-là de pouvoir fournir encore des biens et des services à la mine sans vraiment une vraie sécurisation. Actuellement, la sécurité est au cœur de la crise que connaît ce secteur. C'est vraiment le côté sécuritaire qu'il faut travailler à résoudre.
Élie Kabouré, je vous remercie.
Ok, c'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction.